Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Player Club. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 décembre 2014. Il est 21h et vous écoutez le Player Club, c'est finalement assez logique. Avec moi ce soir, on retrouve Léo. Bonsoir Léo.
Bonjour.
Alors toi, tu as fait une partie du site radiojv.com et on te remercie pour ça. Tu écris aussi pour le portail du jeu vidéo, pour Jeux Vidéo News Magazine et pour Game Love. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça.
C'est fantastique. Avec toi sur le banc des invités, on retrouve notre ami Nathan alias Thomasaurus. Bonsoir.
Bonsoir à tous, c'est Thomasaurus.
Alors tu es le créateur de Feu mais pas Feu. Bah bon point. Pardon. J'ai dit feu mais pas feu. C'est feu et contre feu.
Il reviendra, il est en cours de résurrection là. Il est comme le boss de Street Fighter 3, tu vois. Il est
nice.
Bientôt il va se relever.
Et en attendant, voilà. On peut te lire notamment écrire sur de la baston sur le site gamecult.com.
Ouais, vous pouvez aussi m'insulter. Je commence à avoir l'habitude en ce moment, donc n'hésitez pas.
Et avec nous, on a aussi notre ami Yamato. Yamato, bonsoir.
Et bonsoir, Inks, comment ça va ?
Oui, ça va super bien. On fait un battle de voix super à fond. Tu es boss notamment pour le site numérique. Et tu as aussi lancé un podcast Lag à part. On peut notamment vous retrouver sur Twitter. Twitter.com/lagapart. L-A-G-A-P-A-R-T. C'est bien ça ?
C'est exact. Quelle exactitude. Tu es bien suisse.
C'est fantastique. Ce soir, et dans 3-4 minutes en direct, on vous parlera du jeu de baston. Dernier round. On fera un petit tour. Eh bien, des sorties récentes, des prochains jeux aussi qui apparaîtront sur le marché. On parlera du tournoi, on parlera un peu du milieu comme ça. Est-ce que le jeu de baston est arrivé à la fin d'un cycle ? On va vous en parler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, dans le Player Club, on va s'écouter une chronique de notre ami Concombre qui va nous parler d'un jeu, d'un quiz assez exceptionnel. On s'écoute ça tout de suite et on revient dans 3 minutes.
You don't know Jack veut dire approximativement vous savez que dalle dans une version langagièrement softisée est un jeu sorti dans une discrétion absolue en février 2011 avec qui j'ai saoulé à mort une vaste partie de mon entourage. Parce que si je m'écoutais, c'était le GOTY automatique, au moins dans sa capacité à réussir ce qu'il veut faire. Il s'agit d'un jeu de trivia dont la nouvelle version vient de sortir et oyez oyez, elle est accompagnée de petits jeux qui feront le bonheur de vos réveillons. Mais avant, un peu d'histoire. You don't know Jack n'a pas toujours été un jeu archi obscur, difficile à trouver. Les plus expérimentés d'entre vous se souviennent peut-être d'une version très traduite en français sortie sur PC circa 95, où on nous bombardait de questions sur Chirac et Balladur. Parce que ouais, You Don't Know Jack, c'est avant tout du trivia super bien écrit, où l'intitulé réel de la question est souvent planqué derrière une distraction qui n'a pas grand chose à voir, ou alors la question est plus claire mais part d'une idée géniale. Le jeu a même eu droit à une adaptation télé avec Pee-wee qui a duré à peu près une semaine, comme tous les excellents jeux télé. Le jeu vidéo a eu 15 suites toutes trouvables sur Steam dans un bundle à mini-prix, et Jellyvision, récemment renommé en Jackbox, a sorti une toute nouvelle version il y a donc 40 mois. 70 épisodes de 10 questions, 40 ans DLC, anglais et culture américaine requis. Et l'esprit de You Don't Know Jack moderne est rempli, je dis bien rempli, de petites idées qui en font un jeu low cost parfaitement bourré d'excellence. Je pourrais disserter des heures sur des trucs improbables, comme par exemple les petites jingles qui introduisent les questions, ou les ambiances sonores qui défilent quand elles sont posées. Inutile de trop épiloguer sur le super boulot de Tom Gottlieb, l'acteur qui incarne Cookie Masterson, la voix off de You Don't Know Jack qui enchaîne les vannes et qui maltraite ses stagiaires, quitte à les enfermer dans un carton avec l'animal le plus mortel du monde, pour en faire une question toute simple après, vous voyez le genre. Je pourrais user d'une autre prétérition pour vous parler de cet épisode où les scénaristes partent en pique-nique et où Cookie et son staff sont obligés d'inventer des questions à mi-chemin. Mais je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche. 10 questions de 1 à 4, chacun a une vis, un screw qui permet de screwer, vous l'avez, un copain pendant une question, le forcer à répondre n'importe quoi et pomper son argent. Sinon, plus vous répondez vite, plus vous gagnerez ou perdez du pognon, tout simplement. Dans un épisode, il y a toujours un Disordat, héritier du sel ou poivre, puis un Jack Attack, le super banco final, parce que la vie est injuste. Quelque part dans l'épisode, une mauvaise réponse est vaguement affiliée, en sens ou en phonétique, à un produit imaginaire. Si vous restez assez alerte pour choper la wrong answer of the game, vous gagnez le double de l'argent maximal proposé. Et c'est bien moins compliqué que ça puisse sonner. Il y a des petites pépites qui tombent de temps en temps, comme ces questions où Cookie nous raconte le cauchemar étrange qu'il a fait la veille. À nous de deviner le film qu'il a regardé juste avant. Bref, du fun en barre, enfin surtout pour moi, je suis hélas du genre insupportable quand il s'agit de jeux de trivia. Et alors, badaboum, Jackbox annonce, mi-novembre, de manière totalement sortie nulle part, qu'il sorte You Don't Know Jack 2015 le jour même. Accompagné de plusieurs jeux en version deluxe du studio, l'ensemble s'appelle le Jackbox Pack, dispo à 20€ brousouf sur Steam et sur Xbox One, PS3 et PS4, mais il faudra passer par le marché américain pour les consoles. Cette fois, tout se joue avec des tablettes ou sur un PC en lieu et place de manettes, parce que la plupart des jeux impliquent un vote, une saisie ou un dessin à faire. Feebage, par exemple, est une sorte de Cards Against Humanity où chacun veut proposer une réponse crédible à un fun fact un peu débile. Si votre proposition est choisie dans la masse au détriment de la bonne réponse, vous gagnerez des points. Ça se joue à 8 et c'est hilarant. Drawful est à peu près le même principe, mais avec des dessins. L'Icewater vous demande de débusquer des « le saviez-vous » faux de vrais fun facts. Mais il y a un nouvel épisode de You Don't Know Jack avec 50 nouveaux épisodes, You Don't Know Jack 2015, et de nouveaux jingles. Comme par exemple ou le délicieux Mauvaise nouvelle, c'est que les contrôles par portable interposé sont un poil balbutiants et n'immunisent pas contre les déconnexions éliminatoires. La bonne, c'est que ce cru 2015 est pour l'instant un poil plus facile et moins centré culture américaine. On sent un peu les communes moyens, le redécoupage sonore, tout n'a pas été redoublé mais qu'importe, entre 2 à 4, surtout à 4, le plaisir est toujours là. Avec de nouvelles questions comme kangourou, cacahuète, Albert Einstein ou Uranus. Bref, petit exemple piégeux.
Closely associated with Miranda and Ariel. Kangaroo, peanut, Albert Einstein or Uranus. Nice job, Einstein.
Oui, là, c'était Uranus. Bref, c'est un monstre d'écriture, chaque trivia devrait être fait avec autant de soin. Je suis un peu l'ambassadeur de la série en France parmi aller une bonne quinzaine de personnes, mais je vous recommande fort le Jackbox Pack pour vos fêtes. Bon, ça fait déjà 1000 mots, je m'en vais. Allez, bonne soirée.
De 21h à 22h, le Player Club.
Et bonne soirée à toi aussi, Concombre, que vous pouvez retrouver eh bien chaque mois dans l'émission LOL Japon, diffusée en direct sur l'antenne de Synapsave et produite par Radio Kawa, radiokawa.com, pour récupérer l'émission en téléchargement et podcast. Quant à nous, c'est le Player Club, vous pouvez y réagir au hashtag le Player Club. On va parler du jeu de baston, donc dites-nous si jamais vous jouez des jeux de baston, à quoi vous jouez en ce moment peut-être, ou réagissez simplement à ce qu'on va vous raconter. Je suis toujours avec Léo, avec Thomasaurus alias Nathan et avec Yamato. On attaque donc ce petit dossier entre amis. Et bah, tout d'abord, le premier truc qu'on s'est dit avec Nathan en préparant un petit peu cette émission, c'est que ce serait quand même intéressant de revenir sur des sorties récentes où on est le jeu de baston en ce moment. Alors, il y a eu Guilty Gear X-Third, c'est ça, qui est sorti
la semaine dernière, effectivement. C'était milieu de semaine dernière, donc très très récent, effectivement. Sorti de 10-11, je crois.
Pour le coup, ce jeu-là, c'est un Guilty Gear, ça s'adresse à quel genre de public ?
Alors, ça s'adresse en gros à ceux qui savent déjà jouer à du jeu de baston, c'est-à-dire que les nouveaux, ils peuvent très bien commencer, il n'y a pas de souci, mais c'est plus dur, quoi, clairement, notamment les options de déplacement. Alors par contre, c'est un Guilty Gear qui est moins dur que les précédents épisodes, ce qui, entre nous, n'est pas très difficile, hein, parce que voilà, c'est les derniers épisodes, c'était quand même assez bourrin. Donc c'est vraiment un bon jeu, c'est-à-dire que si vous hésitez, enfin si vous êtes déjà posé la question est-ce que je me ferais bien Guilty Gear, vous pouvez acheter celui-là sans aucun souci. Après, comme je l'avais dit dans le test sur Gamekult, moi je suis moins fan de la direction artistique, de l'ambiance du jeu globalement, mais ça reste un bon jeu, un bon jeu de baston. Puis c'est un peu, enfin je pense que Valentin, enfin Yamato sera d'accord avec là-dedans, c'est un peu le roi dans sa catégorie, tu vois, c'est le Street Fighter de son genre, si tu veux, un petit peu Guilty Gear. Donc passer à côté, ce serait dommage, on va dire.
Si j'étais un vrai intégriste, je dirais que le vrai Street Fighter de la catégorie, c'est Vampire Savior. Mais bon,
oui.
Je pense que Vampire Savior est mort et enterré. Hein. Je pense que le respect est passé dessus 3-4 fois, puis ensuite on a kidnappé le respect, donc Vampire Savior, c'est fini, c'est terminé. Mais c'est vrai que Guilty, c'est un peu le maître étalon.
Quand vous dites le Street Fighter de la catégorie, vous entendez quoi par là, en fait? Qu'il est classique chez les gens qui veulent un jeu un peu plus expérimenté, un peu plus évolué?
Et on pourrait dire ça, c'est-à-dire que, si tu veux, comme le dit Yamato, Darkstalkers, à la base, qui est une série de Capcom qui a commencé en 94, si je me trompe pas, c'est un peu le jeu bêta, en fait, d'un nouveau genre de jeu de baston, qui est un jeu dans lequel chaque personnage a un peu son système de jeu, sa particularité, où on peut sauter beaucoup plus vite, parfois on peut même voler dans les airs, etc., où il y a beaucoup de systèmes de jeu différents, donc des systèmes offensifs, des systèmes défensifs, etc., etc. Et donc, si tu veux, Guilty Gear, quand c'est arrivé, notamment en arcade en 2000-2001, si je me souviens bien, ça a un peu fait un gros boom sur ce genre-là. C'est-à-dire que Darkstalkers existait déjà, mais il n'y avait que lui, si tu veux. Et après, quand Guilty Gear est arrivé et a fait, avec Guilty Gear X, un grand boom, on va dire, dans le genre à ce moment-là, d'autres jeux sont venus et ont pas copié la formule, mais s'en sont quand même inspirés, si tu veux. C'était vraiment l'explosion au début des années 2000 et jusqu'à 2008-2009 et le retour à des gameplays simples via Street Fighter 4.
Mm-hmm.
Bah, c'était l'explosion des jeux à système, des jeux aériens, etc., etc. Et étant donné que Arc System Works, les créateurs de Guilty Gear, ont eu une bonne décennie aussi, ils ont aussi fait beaucoup de jeux de commande, notamment pour Capcom et pour Sega, dans lequel ils ont eux-mêmes implanté des systèmes qu'ils connaissaient, etc., etc. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est un peu le roi dans son sous-genre, si tu veux. C'est que c'est un peu un standard, tu vois, dans l'idée, quoi.
Très clairement, on peut dire que à partir de Guilty Gear X, il y a eu trois écoles. Il y a eu l'école Capcom, l'école SNK et l'école SAMI.
Mm-hmm.
En tout cas, en baston 2D, parce qu'effectivement.
Oui, voilà. D'accord, donc on les différencie comme ça. Du côté des autres jeux qui sont sortis plutôt récemment, alors on a effectivement notre ami Lions Banner qui nous parle de Smash Bros, qui est sorti assez récemment sur 3DS et encore plus récemment sur Wii U. On a aussi Persona 4 Arena Ultimax qui est sorti il y a à peu près un mois.
Dans l'indifférence générale, malheureusement.
Exactement, malheureusement. Sur PS3 et sur Xbox 360, donc pour la sortie européenne. La sortie américaine date de bien plus tôt, elle date de fin septembre. La sortie japonaise, je vous en parle même pas.
Le décalage entre la sortie japonaise et française de Persona 4 Ultima est pas si grande que ça, surtout par rapport au 1. Le 1 qui s'est fait attendre pendant très très longtemps. Là, au contraire, ils ont fait un gros effort. Ah, malheureusement, à mon avis, un peu en vain, puisque le jeu se vendra carrément pas en Europe.
Pas la base installée simplement de gens qui sont fans de Persona pour pouvoir accrocher un spin-off.
Même au Japon, ça reste du jeu de niche. Alors je te laisse imaginer sur un public européen, quoi.
En fait, ce qui est amusant avec Persona, si tu veux, c'est que c'est le deuxième épisode, comme vient de dire Yamato, et chez nous, le jeu, de base, il part mal, parce que le premier épisode, il était sorti en août au Japon, il est sorti en mai de l'année suivante chez nous.
Mm-hmm.
Et c'était le seul jeu, ou le deuxième jeu PS3 de l'histoire à être zoné. Tu vois un peu la blague, en fait. Donc on a attendu 9 mois un jeu, et à la fin tout le monde s'en foutait, si tu veux. Il s'est pas trop mal vendu, Ultimax, d'après ce que j'ai vu au Japon. C'était je crois que c'est les 60 000 ventes.
Sur la première semaine, évidemment.
Voilà, sur la première semaine, on parle toujours de la première semaine. Donc c'est pas si mal, et le tout premier, donc Arena tout court, il avait fait près de 120 000 ventes la première semaine, et pour un jeu de baston, c'est pas mal, parce que je crois que le jeu de baston le plus vendu ces 5 dernières années, c'est le jeu de baston Final Fantasy sur PSP, dont j'ai complètement oublié le nom.
Dissidia.
Dissidia. Ensuite, c'est JoJo All-Star Battle qui a fait 500 000 ventes, je crois, la première semaine. Et qui est un jeu de baston de cette année, d'ailleurs, dont on pourrait parler aussi, et qui s'est très bien vendu au Japon. Et voilà, donc relativement, Persona, c'est pas si mal, parce que les petits jeux de baston comme ça, c'est plus souvent du 20 000, 30 000, 40 000 exemplaires au
Alors
Japon.
Alors après...
Quoi.
Si je peux me permettre, c'est un truc qu'il faut remettre en fait en rapport avec la licence. Persona, c'est quand même une licence qui est assez forte au Japon. Et tu vois, c'est typiquement le genre de choses qui me fait ne pas trop m'étonner devant les chiffres de vente de Guilty Xyz, on y reviendra plus tard sûrement, mais qui ont été inférieurs à ceux de Persona, et également inférieurs à un autre jeu de baston dont on parlera sûrement après. Fighting Climax de
Dengeki Bunko Fighting Climax
ou Fighting Waifu comme dirait Thomas Zorus pour me changer gentiment.
C'est ça en même temps.
qui est un jeu d'adaptation en jeu de baston de plein de licences d'un éditeur de light novel, c'est ça, Valentin?
C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, c'est des adaptations avec les personnages tirés des séries animées et des light novels. On commence à s'y perdre, mais finalement, c'est comme on connaît pas les light novels, parce que les light novels en France, à part quelques irréductibles qui aiment ça, nous on regarde les animés et on lit les mangas comme des gros sales. Finalement, c'est pas très grave.
Mais il y a beaucoup d'adaptations qui ont été faites en animé, surtout qui sont sorties sur Wakanim, genre Sword Art Online, Reno Imoto,
exactement.
Etc. Donc on connaît quand même quelques têtes. C'est déjà bien. Enfin, ça peut presque se vendre, presque.
Le seul que je connais, moi perso, c'est Durarara, qui est une excellente série notamment,
ouais, ça déchire, ça.
Et dont un des personnages est dans Dengeki. Je crois que c'est un des seuls personnages masculins d'ailleurs du jeu.
D'ailleurs, je me demande si Fox n'a pas acheté Dengeki Fighting Climax, puisqu'on peut y jouer les personnages d'Axel World, qui a beaucoup aimé la série.
D'accord, on lui demandera pendant les coulisses, peut-être vendredi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là on a une petite idée donc des sorties plutôt récentes. On a aussi une certaine idée des prochains jeux qui sortiront dans le domaine.
Alors
avec
on me
notamment...
signale dans l'oreillette qu'on a oublié Under Night in Burst Exhalate.
Oui. Qu'est-ce que c'est?
Lune d'Uniel pour les initiés, puisque c'est les initiales Uniel.
Oui.
Donc t'en as plusieurs, Uniel et les abeilles. Lune d'Uniel.
Alors, tu vois.
Xavier Uniel.
Xavier Uniel aussi, celle-là, je l'avais faite.
On ne s'arrête pas.
On ne s'arrête plus. C'est fini.
Et donc, pour te répondre, Inks, ce jeu-là, en fait, c'est une nouvelle licence. C'est assez rare dans le jeu de baston pour être noté. Ça ne repose pas sur une adaptation ou quoi que ce soit.
Wow.
Et en fait, c'est créé par une société qui s'appelle French Bread. Donc pain français et qui si tu veux a créé un jeu de baston qui s'appelle Melty Blood en 2000, c'était 2002 ou 2004, je sais plus le premier, 2002 peut-être. Mm-hmm. Et en gros, si tu veux, Melty Blood, c'est un peu une branche, une sous-branche de tout ce qui est jeu à la Guilty Gear, mais qui a eu une grosse influence sur la création indépendante et amateur de jeux de baston ensuite. Et là, en fait, ils faisaient que des adaptations de, on parlait de truc d'anime, etc. Bah eux, ils faisaient ça pour un visual novel qui s'appelait Tsukihime. Mm-hmm. Et là, en fait, ils ont créé leur propre nouvelle licence. Et pour moi, c'était le jeu le plus intéressant de l'année, honnêtement. Voilà. Après, c'est des questions de goût, si tu veux, mais le jeu méritait vraiment d'être essayé, puisqu'il était, comme Guilty Gear, c'est le genre de jeu qui drague un peu tous les joueurs d'autres licences, d'autres écoles, mm-hmm. et qui permettait à tout un chacun de s'amuser en retrouvant des choses, en fait. Donc, c'était plutôt bien foutu, quoi. Voilà.
Ben voilà. D'accord. Très bien. Dans ce cas-là, on va avancer un petit brin et parler justement des prochaines sorties, des jeux qui ne sont pas disponibles maintenant, mais qui vont l'être bientôt, avec notamment, alors j'ai noté, Mortal Kombat, un nouveau Mortal Kombat, qui sortira bientôt. Lequel est-ce déjà ?
C'est le 10e.
C'est le X, Mortal Kombat X.
C'est celui qu'on a vu notamment, on a vu les images de l'E3, c'est ça ?
Exactement. On a même pu le tester à la Gamescom.
Ah, et qu'est-ce que ça donnait ?
Eh bien, écoute, je vais être franc avec toi, j'ai trouvé ça plutôt joli.
Mm-hmm.
Honnêtement, niveau décor, niveau personnage, ça tape pas mal. Mais après, voilà, honnêtement, si vous avez joué à Mortal Kombat 9, grosso modo, c'est Mortal Kombat 9 avec des nouveaux persos et des mécaniques de stage un peu comme dans Injustice. Voilà.
Ouais, ok, très bien. C'est...
Après, ça se pourrait, on va entrer dans des détails un peu plus... Enfin, ça a l'air d'être la bonne somme, en fait. Tu me diras, Yamato, moi je n'y ai pas joué, mais ça a l'air d'être la bonne somme entre les bonnes idées de Mortal Kombat et les bonnes idées d'Injustice.
C'est
mais un peu lissé, parce que par exemple, Injustice, tu pouvais pas bloquer les interactions avec le décor, donc tu te prenais des cochons morts dans la tête à l'infini et ça énervait tout le monde. Et donc là, ils ont fait en sorte que ce soit un petit peu la somme de tout ce qu'ils ont appris ces 5 dernières années, et le jeu s'annonce vraiment sympa, quoi. Vraiment, vraiment.
Alors, je t'avoue que c'était un petit peu succinct comme session de test. C'est-à-dire que le mec nous a beuglé pendant 10 minutes que le jeu était awesome, qu'il était magnifique. Il a fait une démo, il maîtrisait quasiment que dalle, mais c'était toujours awesome et compagnie. Donc, on a pu mettre les mains sur le jeu. Après, j'ai pas pu tester ce genre de détails, mais voilà, au niveau combo et au niveau interaction du décor, c'était quasiment pareil. Enfin, c'était voilà, comme tu dis, c'était vraiment le mix entre les deux. Après, j'ai pas pu tester ces points bien particuliers, mais dans l'ensemble, le jeu avait quand même un bon feeling, et je pense que les fans de Mortal Kombat s'y retrouveront pas mal.
Oui, dans le jeu de baston, un bon feeling, c'est quand même assez essentiel. Derrière, on a aussi la réédition de Dead or Alive 5. Est-ce qu'on sait ce que ça apportera?
Encore plus de maillots de bain
Ouais, en 4K Non, 4K, c'est pas vérifié du tout, hein, c'est même probablement faux. Mais
voire même plus de maillots de bain, parce que les fous, les malades, ils le sortent sur PC, le jeu. Je sais pas s'ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire, hein.
Bah, ils ont ouvert la boîte de Pandore, là.
Il y aura des patchs d'excité, c'est triste, mais.
Le pire étant que, si tu veux, on a, souvenez-vous de Street Fighter 4, le premier, quand il est sorti sur PC, où il s'était fait pirater, parce que tu pouvais prendre, en fait, n'importe quel code du jeu pour jouer avec en ligne, et ça marchait. Donc, pourquoi pas, hein. Mmh. Et dans lequel ils avaient débloqué les costumes facilement en changeant une ligne dans un fichier de config, etc. Ouais. Donc là, Dead or Alive 5, autant je suis content de le voir arriver, autant j'espère qu'ils réalisent vraiment ce qu'ils sont en train de faire, parce que sinon ils vont en baver. Et qu'est-ce que ça apporte? Bah, c'est honnêtement pas grand-chose, parce qu'en fait, Tecmo, même si la série Dead or Alive est un peu revenue d'entre les morts ces 2 dernières années, ils ont fait un super suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu des patchs quasiment tous les 6 mois pour faire évoluer l'équilibrage. Ils ont mis des persos en DLC, alors certains un peu clones, faut avouer, c'était un peu abusé. Et par contre, ils ont offert pas mal de contenu, notamment des stages ou certains costumes ou certains trucs. Et en gros, Last Round, qui sort sur PS4, Xbox One et PC, c'est la version définitive, tu vois, du jeu, dans lequel il y a tous les DLC, tous les personnages DLC sortis, tous les stages, tous les machins, tu vois, c'est... Mm. C'est comme
il est sorti en arcade aussi, non, au Japon?
Oui, il est sorti en arcade au Japon, oui. Et il est bêta-testé en arcade au Japon, donc c'est une bonne chose pour le coup.
Je sais même pas s'il est populaire ou pas.
Je saurais vraiment pas le dire, hein. Je pense pas énormément, honnêtement.
Ouais. Pourtant, les DLC et tout, c'est totalement orienté vers le public japonais, même si on aime bien, nous aussi, les DLC un peu foufou, sexy. En général, c'est plutôt les acheteurs, donc...
Oui, puis il faut dire ce qui est, ils ont quand même trouvé un bon filon, c'est-à-dire que ils en ont fait beaucoup de DLC et ils sont très chers, ils sont vraiment très chers. C'est genre 3 costumes pour 5 à 6 euros, tu vois. Et oui, ça, ça pique, mais ça doit marcher puisqu'ils continuent d'en faire. Donc
ouais, attends un peu qu'on leur mette quelques Steam quelques soldes Steam dans la gueule, là, tu vas voir. Ils vont quand même faire les malins avec l'intégrale des costumes pour 2,69€.
Ouais, à nous les bikinis à 2,69€.
En même temps, quand tu regardes la tête des DLC, tu sais, pour les Train Simulator, les têtes de pack de DLC, c'est quand même assez, assez rock'n'roll. Les prix qui peuvent être même avec des réducts. Donc,
bah, ce serait... Peut-être qu'on pourrait faire un fighting game simulator, hein, ça pourrait être un concept.
C'est pas les mêmes carrosseries, quoi.
Notre ami Doki nous dirait que Toribash est là pour faire le fighting game simulator. Si vous n'avez pas joué à Toribash, je vous invite à essayer. C'est particulier.
C'est d'accord.
Mais c'est une simulation de jeu de combat, on est d'accord.
On cherchera ça sur Google. Pour le coup, donc on a vu un petit peu ce qui est sorti récemment, ce qui sortira bientôt dans un futur plutôt proche. Qu'est-ce que ça dit du marché aujourd'hui du jeu de baston? Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? Est-ce que à part Smash Bros qui vit dans son petit monde de licence Nintendo, de fan service, etc., est-ce que finalement la flamme est doucement en train de s'éteindre qui avait été lancée en 2008 avec Street 4?
Je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi je pense qu'elle est déjà éteinte depuis fin 2013 en fait, et que 2014 c'est une année de creux, comme 2015 sera une année de creux. Et donc, les jeux qui...
Donc là, les 4-5 jeux qui sont sortis, on peut s'attendre à une sortie à petit régime comme ça, mais chaque année, à peu près.
En fait, le truc, si tu veux, c'est que il y a pas de... Comment expliquer? En fait, Smash Bros, tout comme Mortal Kombat, par exemple, c'est des séries qui, indépendamment qu'on soit dans une bonne ou mauvaise vague de jeux de baston, se vendent, si tu veux. Smash Bros, c'est le jeu de baston le plus vendu de l'histoire. Bon, par rapport au nombre d'épisodes sortis, en 3 épisodes, Smash Bros, ils les ont vendus, je crois, c'est presque 30 ou 40 millions de jeux, je crois.
Alors, pour le coup, ils en sont maintenant à 4 épisodes, voire 5 si tu comptes 3DS et Wii U séparément.
Donc, le truc, si tu veux, c'est que Smash, ça se vend peu importe la période. Uh-huh. Et Mortal Kombat, c'est un peu pareil, en fait, parce que Mortal Kombat, c'est une série qui s'est toujours bien vendue, en fait. Donc, c'était un peu pareil pour Tekken jusqu'à Tekken 6, qui s'est très très bien vendu en 2008 aussi. Et avant que Street Fighter 4 n'arrive, parce que Street 4 il est arrivé que sur qu'en 2009 sur console. Par contre, là, les jeux qu'on a, c'est quand même pas mal de rééditions.
Ouais.
C'est quand même pas mal de d'épisodes plus alpha, de trucs comme ça. Donc ça fait déjà pour moi une bonne année, voire une année et demie qu'on est dans un bon creux, tu vois. Alors il y a encore des sorties, mais il y a rien qui va te secouer vraiment l'arbre, quoi. Voilà.
Moi, je dirais pas que le feu est éteint. Clairement, clairement, le Brasil Street Fighter 4 qui a tout fait cramer sur son passage, il s'est complètement calmé. Mais voilà, là, en fait, on a une espèce de petit feu qui permet de faire sa popote. Vous voyez,
c'est ça.
Voilà, il y a des éditions successives qui sortent. On sort un DLC, on sort une extension, on sort une suite, mais pas trop. Alors effectivement, comme on nous disait sur Twitter, c'était réducteur pour Mortal Kombat puisqu'on effectivement il y avait il y a plusieurs styles de combat par personnage et il y a également quelques mécaniques en plus. Et je pense que Mortal Kombat pour le coup ce sera pas non plus un Mortal Kombat 9.5 clairement. Mais mis à part lui, ben voilà, Capcom là il a avec la Capcom Cup ce week-end clairement essayé de rallumer le feu en annonçant Street Fighter 5. Et j'ai pas l'impression que pour l'instant on ait un impact aussi important que celui Street 4. De toute façon, c'est clairement à mon avis, on réassistera pas au raz-de-marée qu'il y a déjà eu. Mais là, voilà, il y a pas mal de gens effectivement qui ont découvert le jeu, ça en parle beaucoup, en bien ou pas forcément, un petit peu en mal aussi. Il y a pas mal d'interrogations et je pense que si Capcom maîtrise bien sa com, il y a moyen de refaire quelque chose. Mais bon, on n'atteindra pas non plus l'engouement pour Street Fighter 4 à l'époque.
Alors, parlons-en de Léo, excuse-moi.
Oui, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que disait Yamato, et effectivement, à mon avis, ça va maintenant dépendre de la com. C'est-à-dire que ils se sont construits un public qui, même s'il ne joue pas au jeu de combat, suit un petit peu les événements, etc. Et à mon avis, maintenant, les sorties vont se calmer entre chaque gros événement ou entre chaque grosse campagne de communication. Donc ça va, en fait, ça va y avoir des braises qui vont couver. En attendant simplement que suite à un événement ou alors une campagne, quelqu'un souffle un gros coup dessus, ça va se rallumer. Il y a 4 jeux qui vont sortir d'un coup, sur les 4, certaines personnes en achèteront 3, 2, voire un seul, et en fait ça suffira à relancer le genre pendant quelques mois, quoi. Puis ça va se continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait encore un autre Street 4, mais bon, ça ce sera effectivement 5-6 ans, quoi.
L'analogie des braises est très pertinente, parce que les braises au final c'est qui ? Bah, c'est les joueurs de jeux de baston. Et il faut bien avouer que depuis le passage de Street 4, il y a beaucoup plus de monde qui a mis ses mains sur un jeu de baston qu'il y en avait à l'époque. Hein. Très honnêtement, la base de ceux qui, de quelqu'un qui a joué à Street 4. Alors bien sûr, on parle de jouer au sens large, c'est-à-dire que aussi bien des mecs qui font des combos Just Frame en mode piano que ceux qui ont fait 3 Hadoken entre 2 Heineken entre potes sur le canapé, qui ont joué 2 mois maximum, mais qui trouvent ça cool et qui regardent 2-3 vidéos de Ken Bogard quand on leur link sur YouTube. Voilà, la base de joueurs de jeux de baston qui sont des néophytes ou des confirmés est tellement plus importante depuis le passage de Street 4 et tous les jeux qui ont découlé, qu'au final, même s'il n'y aura pas un gros brasier plus tard, il y a quand même, voilà, il y a pas mal de braises, et je pense que la flamme s'éteindra pas, quoi.
Et ça, c'est Murray sur Twitter qui le dit, il nous demande est-ce que la popularité plus importante des tournois grâce au net a pas permis d'entretenir la flamme plus longtemps. Bah, c'est ça.
Clairement, le truc, si tu veux, c'est que si par exemple, autant de gens regardent des jeux vidéo joués par d'autres personnes plutôt que d'y jouer eux-mêmes, le jeu de baston, c'est pareil, si tu veux, parce que ça a un degré en plus d'excellence pour avoir du beau jeu, etc., qui est super demandeur. Donc voilà, c'est normal, et je suis assez d'accord avec ce que disent Valentin et enfin Yamato et Léo. C'est que il y a des braises et ça demande qu'à se rallumer. Après, il faut le bon jeu avec la bonne com au bon moment. C'est toujours comme ça de toute façon, mais on n'est pas dans un trou actuellement qui est aussi violent que celui qu'on a connu dans les années 2000. Parce que le dernier avant Street Fighter 4, le dernier Street Fighter canonique, c'était en 99, tu vois. Donc ça fait quasiment 10 ans de trou et c'est un peu sorti de nulle part à l'époque Street Fighter 4, genre tout le monde était là, ah tiens, oui. Pourquoi pas, tu vois. Alors là Street 5, ils ont vraiment pas attendu que les braises retombent, alors que ça va faire 8 ans quand il sortira que le jeu est sorti, que le tout premier épisode est sorti, tu vois. Donc c'est quand même comme ils disent les deux là, ça peut redémarrer, mais après ça dépend vraiment de l'orientation du jeu on peut en parler si tu veux, mais je pense que ce sera quand même très différent Street 5 de Street Fighter 4 globalement.
Je suis tellement hypé par Street Fighter 5.
Mais on putain, pareil.
On va en parler dans un instant, mais d'abord on va répondre à la question d'Arthur Froment qui nous dit: peut-on accueillir en 2015 une toute nouvelle licence face à l'imposante Street Fighter ou Guilty afin d'apporter du sang neuf? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui?
Clairement, en 2D, non.
Voilà. Mais il faut aller sur un autre terrain pour le coup. Il faut faire du jeu de baston 3D et tenter d'innover par là avec un gameplay plus intéressant, pas plus intéressant. C'est prétentieux de dire plus intéressant que Sweet Street ou Sweet Guilty, mais en tout cas de faire un gameplay qui soit plus intéressant que ce qui a été fait en 3D jusque là.
Bah le problème, si tu veux, c'est qu'il y a pas, tu peux pas non plus réinventer un genre de jeu. Enfin, c'est comme si tu disais je vais réinventer le FPS. Compliqué, tu vois. Mais peut-être qu'il y a moyen de faire des nouvelles licences, mais c'est vrai que licence en 2D, généralement, t'en verras peu, pour la simple raison que c'est plus restrictif, en fait, comme genre de jeu, parce que tu regardes, par exemple, Dead or Alive 5 qui est sorti il y a peu, bah ça fait tu vois, c'est un jeu 3D, certes, mais c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions avec des décors, où ils ont mis des nouvelles mécaniques, où tu t'accroches aux bordures pour éviter de tomber, il y a des explosions, il y a des bikinis, tu vas à la plage, enfin, tu vois.
Des explosions et des bikinis.
Tu vois. Il y a plein de choses qui font que, au-delà de se battre, tu vois, le jeu, il en donne, entre guillemets, pour son argent. Alors que quand tu regardes un jeu de baston 2D, t'es sur un plan avec deux types qui avancent, qui reculent. Ça peut être un peu moins vécu comme moins engageant, tu vois. Donc
je pense que ça viendra en fait d'un autre style, comme sur Smash Bros. Donc pas pour le concept de fun tout ça, le concept que Smash parle aux gens qui font des jeux de plateforme, parce que de base le gameplay vient plus du jeu de plateforme.
De l'éjection, bien sûr.
Ouais, de l'éjection, et puis même en fait premier truc que t'apprends sur Smash, pardon, c'est à te déplacer, à sauter. C'est presque plus important que les combos, les coups et tout ça. Et en gros, en fait, si quelqu'un arrive à décliner un genre vers un jeu de combat ou un hybride, ouais, ça pourrait marcher. Mais effectivement, sur le 2D, il y a tellement, enfin, si tu veux commencer le jeu de 2D, tu sais par où tu vas aller. T'as pas besoin de tenter une nouvelle licence au pif ou quoi que ce soit, quoi.
Sur Twitter, Koyos tente une vanne en disant le jeu de combat en FPS, le mode duel de chivalry. Voilà.
C'est continue ça. Un de... peu. Le pire, c'est que c'est un peu ça.
Bah, il n'empêche que Chivalry est quand même un excellent jeu et je pense que les duels de Chivalry sont vraiment très fun. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce jeu.
C'est ça. À voir, en tout cas, ça a l'air très très chouette. Oui. Continuez de réagir au hashtag le Player Club. Vas-y.
Je peux poser une question à messieurs Yamato et Léo concernant Street 5, c'est que je pense que le jeu, si tu veux, étant donné la com qu'ils ont fait, parce qu'on parlait de com, le mot-clé de leur communication pour Street 5, c'est Rise, tu vois, c'est s'élever, quoi, en gros. Mm-hmm. Et le truc,
moi, je pensais que c'était un truc avec des gladiateurs romains sur Xbox One, hein.
Non, c'est un Y, ça.
Non, c'est zut alors.
Ils confondent un peu tout. Et le truc, c'est que quand je vois les systèmes de jeu qui ont l'air quand même vachement plus, les systèmes de jeu ont l'air quand même plus creusé dans Street 5, le rendu, le fait qu'il y a la version PS4 et la version PC, que les deux vont pouvoir jouer ensemble, ça c'est complètement ouf et c'est vraiment trop bien. J'ai l'impression que Street 5, il va moins essayer de répéter le Street 4 qui se vend à peu près à tout le monde, qui cherche un bon jeu pour la soirée, et plus lorgner du côté, c'est le gros mot, e-sport, compétition, PC, PS4, sérieux, tu vois. Ou vraiment, tu sais, comme la com de League of Legends où ils mettent en scène vraiment les joueurs, ils font limite des vidéos en 3D de types qui sont sur leur clavier et qui se battent par clavier interposé, enfin tu vois, c'est assez ouf comme com, et je me demande si leur but c'est pas ça à terme en fait, c'est-à-dire de s'imposer comme, bon, ils sont déjà le jeu de baston hégémonique, mais le fait qu'il arrive aussi sur PC, j'ai vraiment la sensation que ils veulent combler un trou qu'il y a, sur PC en tout cas, et la version PS4 vient avec, parce qu'il faut une version console, parce que les jeux de baston sont sur console historiquement, mais vraiment, moi, ça me surprend vraiment, en fait. Je pensais qu'ils allaient reproduire le côté, on est un peu plus casu, on fait un jeu plus simple, etc., et j'ai l'impression qu'ils partent sur un délire vraiment compétitif, mais encore plus qu'avant, quoi, comme s'ils l'embrassaient, comme Riot Games l'embrasse depuis des années, quoi. Donc voilà, c'est, je voulais savoir ce que vous en pensez.
Mais c'est sûr et certain, enfin, c'est-à-dire que ils ont bien vu qu'en fait, le truc marche presque tout seul. Genre, SF4, je suis pas bien sûr qu'il l'ait sorti pour l'esport à la toute base, et juste en sortant des mises à jour régulières, il y a une scène qui s'est créée toute seule. Donc ça, quand t'es un investisseur et que tu vois que t'as même pas besoin de mettre tant de fric que ça pour que ton jeu il explose, tu te dis, putain, ce filon, je l'exploite à fond, quoi. Donc là, les vidéos de promo, les games que les Capcom Cup, etc., c'est juste la pré-promo. Je suis sûr que le jeu, en dehors de deux persos et d'un système, il est même pas si poussé que ça en développement. Mais ils vont juste faire en sorte qu'il y aurait un tournoi qui va arriver, mais direct à la sortie, qui va être ultra médiatisé, twitché à mort, etc. Et ils vont organiser encore plus, je pense. On va pas se limiter à juste un tournoi et quelques apports de fric sur les tournois les plus importants, genre allez-vous, etc. À mon avis, ils vont essayer... Enfin, s'ils sont intelligents, je pense qu'ils vont essayer de mettre en place une vraie ligue internationale ou un truc comme ça, quoi. Ils vont pas laisser ça à des sites tiers, genre Shoryuken et tout ça, et ils vont vraiment monter la sauce.
Bah si, moi je pense qu'au contraire, ils vont quand même le laisser, parce que un des trucs justement de la Capcom Cup, c'est que c'est un circuit international, Europe, Asie, Amérique du Sud aussi, l'Amérique du Sud commence à démarrer, et je pense que notamment la version PC, c'est beaucoup pour l'Asie et les pays plus émergents. Mm-hmm. Et le truc, c'est que là, ils ont quand même un circuit mondial de tournois qui leur coûte rien. Enfin, faut quand même y réfléchir comme ça.
Ah, mais non, les meilleures solutions sont celles qui coûtent rien. Enfin,
Et là, en fait, où c'est ouf, c'est qu'ils ont réussi à finalement trouver un bon équilibre entre on supporte, mais on contrôle pas trop. Tu vois? Alors que, à l'inverse, notamment, je pense à League of Legends où ils aiment beaucoup contrôler. Et à l'inverse encore, Dota 2, tu vois.
C'est un peu le problème.
Ils font The International et le reste, ils laissent les gens un peu faire leur truc au point que des gens disent Valve n'aide pas assez l'e-sport, tu vois. Et voilà, enfin Valve, tu connais probablement mieux que
ouais,
moi tout ce milieu-là.
Ouais, très clairement, moi je suis pas du tout pour la solution pour Street Fighter de créer une ligue comme les LCS de League of Legends ou les WCS comme Blizzard pour StarCraft 2. Il faut très honnêtement l'avouer, ça fait très très mal à la scène compétitive communautaire et associative, et ça a vraiment foutu le zbeul Parce que.
Mais pourquoi ça l'a fait en fait rapidement?
Bah, disons que Riot en fait a décidé de faire son truc de LCS et voilà. Mmh. Quand t'as tes teams de LCS, elles font que les LCS, c'est-à-dire qu'elles ne font aucun autre tournoi. Donc t'as un pool d'équipes qui sont tous des top mondiaux puisqu'ils sont tous qualifiés pour ça. Donc forcément c'est les meilleures équipes.
Mais qui sont coincés dans cette petite boîte.
Qui sont coincés en fait dans cette ligue permanente. Uh-huh. Alors que à côté il pourrait y avoir tellement plus d'événements et du coup voilà tu te retrouves avec des tournois avec. Alors t'as du très bon level aussi chez les sub top, mais du coup ces derniers en fait Riot les considère absolument pas et c'est un peu le même problème pour les WCS. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a cette compétition internationale de Blizzard avec toute la machine Blizzard derrière, mais tu vois quand tu vois par exemple comment O'Gaming qui organise notamment les Nation Wars ou l'Iron Squid, ils galèrent aussi bien financièrement qu'au niveau organisationnel pour monter des compétitions avec un minimum d'envergure en dehors des LCS, des WCS pardon, c'est très très compliqué. Et Capcom, en fait, le truc aussi, c'est que historiquement, Street Fighter a quand même c'est une communauté depuis la sortie du jeu en 91, mmh. pardon. Et du coup, de facto, tu peux pas te couper d'une communauté qui a déjà 20 ans, elle a plus de 20 ans la communauté Street Fighter. Mmh. Les organisateurs d'aujourd'hui, c'était les joueurs de l'époque, les Alex Valley et compagnie, notamment aux États-Unis. Et c'est une communauté en plus qui est très très peu disciplinée, à laquelle un cadre fixe, ça fonctionnerait pas du tout.
Mmh. C'est super important de retenir ça, c'est que tu vois, il y a eu des problèmes de sexisme notamment dans le milieu du jeu de baston ces 5 dernières années, notamment aux États-Unis. Ouais. Et en fait, tu regardes aujourd'hui, il y a des mecs qui sont montés au créneau, les vieux, tu vois, les vieux orgas, ils sont montés au créneau, ils ont dit bon alors les pom-pom girls c'est fini, les nos girls machin etc c'est terminé. Maintenant, vous faites en sorte que vos tournois, si vous voulez être dans le plus gros circuit de tournois du monde, c'est-à-dire l'Evo. Si vous voulez en être, bah maintenant va y avoir des règles de conduite. Donc par exemple, pas de chair au sens propre, au sens pur du terme. Au niveau du langage, on évite tout ce qui est langage avec la culture du viol. On essaie aussi d'éviter tout ce qui est discrimination envers les femmes, envers les gays, envers les trans. Et résultat, de base, comme c'est une communauté qui est hyper diverse parce qu'elle est vraiment très pluriethnique. Aux États-Unis comme en Europe, enfin partout, et qu'il y a des gens de tout milieu, c'est-à-dire il y a des cadres, enfin tu vois, un des plus gros commentateurs de jeux de baston, il est avocat, tu vois. tu penserais pas comme ça. Et à côté de ça, t'as des joueurs qui sont les meilleurs du monde, et les types limite ils bossent au Starbucks ou limite ils squattent chez les autres parce qu'ils travaillent pas, tu vois. Enfin, il y a de tout en fait. Il y a de tout dans ce milieu. Et résultat, ça fait que c'est super riche et que tu te retrouves avec des articles fabuleux dithyrambique sur Polygon par exemple où
le milieu e-sport est extraordinaire
où ils disent regardez, le milieu du jeu de baston, il y a toutes les couleurs de peau, il y a tous les âges, il y a toutes les situations sociales, alors que quand tu vas voir un tournoi de Starcraft, de LOL, de machin, t'as des Coréens entre 15 ans et 25 ans et ils tirent tous la gueule. Voilà, et là c'est ouf parce que moi honnêtement les compétitions de hormis peut-être Dota 2 quand il y a Navi qui joue parce qu'ils me font marrer parce que voilà, je trouve ça un peu plan-plan. Les gens ils sont un peu plan-plan et dans le milieu du jeu de baston, il y a déjà l'image. C'est-à-dire que les types ils sont déjà fous, ils sont déjà à fond. Donc t'as plus qu'à t'accrocher à ça et puis tu prends le chemin en route en fait.
Enfin, j'espère, hein, j'espère parce que s'ils uniformisent pour s'aligner sur les ligues de sport ou les trucs comme ça.
Je pense pas qu'ils le feront honnêtement.
Enfin ouais non mais j'espère qu'ils le feront pas, mais je pense qu'ils rêvent un petit peu à ça. Les trucs de foot etc qui rapportent des milliers, alors ils arriveront jamais à ce niveau-là, mais enfin. Contrôler ces trucs-là et contrôler les sponsors, les publicités, les créations de clubs, etc., ça rapporte une manne. Si t'en as un peu rien à foutre de derrière, de tuer des communautés associatives, bon.
Ouais, mais je pense pas, parce que je pense que ça leur rapporterait pas suffisamment par rapport à ce que ça leur coûterait d'organiser eux-mêmes, en fait, tu vois.
Ok.
Donc après, voilà, c'est... je sais pas, Val, t'en penses quoi de ça?
Je pense que c'est différent suivant les continents. Très clairement, la scène US est autosuffisante. Parce que les mecs sont capables de débourser, tu vois, l'Evo, c'est $50 pour rentrer. Genre, pour rentrer sur l'event.
Ah oui. C'est du niveau de fan de, par exemple, la BlizzCon ou la QuakeCon.
Exactement. Les mecs, ils sont capables de balancer. C'est comme si nous, on balançait €50 pour rentrer à Japan Expo et qu'ensuite, à l'intérieur de Japan Expo, on balançait encore 20 euros
Oui, c'est ça, en fait.
Pour assister au concert de machin truc. Et toi, tu vas dire, mais t'es complètement malade. Déjà, le prix normal actuel, c'est de la folie. Je vais jamais mettre 50€. Et ben eux, ils s'en ont rien à foutre. Ils les mettent parce que ils ont un rapport à l'argent qui est complètement différent du nôtre. Ils sont capables de faire des money match sur un oui, sur un non. Ils ont pas du tout de le fric. Ils s'en foutent en fait. Tant qu'ils en ont, ils s'en foutent. Et ça, en Europe, on s'est toujours c'est toujours heurté au problème des tournois trop chers. Mmh. Sachant que tu mets un tournoi à 15€, 20€, on va commencer à te dire non, c'est trop cher, je viens pas.
Qui comprend l'inscription au tournoi et l'entrée au lieu
et l'accès à la salle, les deux en même temps. Mais non, c'est trop cher.
C'est un deal exceptionnel, mesdames et messieurs.
Et très honnêtement, en tout cas en tant qu'organisateur, donc dont on a fait plus ou moins partie avec Nathan, même si on n'est pas du tout les locomotives dans le secteur, on s'est très souvent heurté à ce genre de situation, à essayer tant bien que mal de tirer les prix par le bas et de choper des salles pas trop chères, tandis que voilà, aux États-Unis, les mecs, les VOS, ça se déroule au César Palace.
Alors, juste quand même. Une seconde, vous avez organisé quoi il y a pas longtemps du coup ? Enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques mois voire années quand même.
Pardon, excuse-moi.
Vas-y.
Bon, moi mon expérience d'organisation de tournois, c'est essentiellement au niveau des streams, donc tout ce qui est captation, diffusion vidéo. Après, très honnêtement, il m'est déjà arrivé dans le passé, dans les années 2003, 2004, 2005.
Ah oui.
Et 2006, de mettre la main à la pâte, effectivement. Donc, à l'époque, c'était quand même quelque chose, hein. C'était des TVCRT encore à l'époque. Et c'était des tournois sur Street Fighter 3 et KOF 2002, je me rappelle, avec Okuto Youssef, un grand monsieur de la communauté KOF. On organisait, en fait, 2-3 events. On escouattait un bout de table en convention, on nous offrait l'électricité parce que voilà, on était complètement à la dèche. Tu faisais le tour de la petite couronne parisienne avec le camion du beau-frère pour aller récupérer les TVCRT le vendredi soir, tu les ramenais le dimanche soir. Les mecs, ils étaient 80 dans un tournoi Street 3 sur PS2 avec 4 postes sur des 36 cm et tout le monde était content, quoi. Mais très clairement, ça n'avait absolument rien de cadré et d'organisé. Il y avait beaucoup de chaleur humaine, c'était très très bonne ambiance, mais on en est maintenant très 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 loin.
Et toi, Nathan, c'était la même chose ?
En fait, moi, si tu veux, j'ai de base, comme Valentin, comme Yamato, pardon, je vais jamais y arriver. comme Yamato, en fait, moi, je jouais à Guilty Gear essentiellement entre 2004 et 2009, si tu veux. Et déjà, quand t'allais à un tournoi, il y avait, l'organisateur, c'était un des joueurs, tu vois. C'est-à-dire on te donnait de la place et tout, mais quand il y a que 10 orgas pour gérer 500 personnes qui se ramotent dans un parking à Rennes, celui qui fait ton tournoi, c'est toi-même, tu vois. Donc tu fais avancer ton tournoi et tout. Donc tous les gens de cette époque, je pense, ils ont tous un peu pris de l'expérience à ce niveau-là, et puis ils ont fini par devenir président d'assaut en France ou ce genre de truc. Et moi perso, j'ai organisé des tournois sur Guilty à Austin Fest et sur BlazBlue aussi. J'en ai fait sur Skullgirls également et sur Deadliest Warrior, un grand jeu.
Et, monsieur Nathan, le respect.
On salue notre ami JP Koff qui avait mindfucké le tournoi en jouant un personnage qui courait plus vite que les autres et personne n'arrivait à l'attraper.
Il jouait à Benny Hill, voilà.
C'est ça, et avec un mec en slip, on le précise.
Et bien Benny Hill.
Voilà, et le truc c'est que non, surtout je me suis investi moi après dans la World Game Cup entre 2011 et 2000 et aujourd'hui en fait.
D'accord.
Et je suis monté petit à petit. Au début j'ai fait un peu de com, ensuite le site, ensuite j'ai géré une scène, j'ai aidé Valentin, etc. quoi. Donc prendre l'expérience comme ça, mais pour sûr, même ça, si c'est cadré et que c'est déjà beaucoup plus pro, ça n'a rien à voir en termes d'encadrement par rapport à ce qui est fait dans le vrai milieu pro.
Notamment au States, ouais, d'accord.
D'ailleurs, tu vois, tu regardes actuellement les deux plus gros events français, le Stunfest, qui d'ailleurs n'est plus du tout, historiquement c'était un jeu de baston, mais maintenant c'est bien plus que ça. Mais le Stunfest et également la World Game Cup à Cannes, qui a changé de nom cette année, qui va rechanger de nom d'ailleurs avec Valse des Orgas, mais la World Game Cup jusqu'à 2012 telle qu'on l'a connue, qui est, je pense, le plus gros tournoi spécialisé jeu de baston d'Europe à l'heure actuelle. C'était un budget mais ridicule, je veux dire.
C'est ça.
C'est franchement, allez, je suis désolé si on me reprochera peut-être d'avoir balancé le chiffre, mais la World Game Cup 2012, qui était l'édition la plus réussie à l'heure actuelle, hein, il y a aucun doute là-dessus, avec un nombre d'inscrits vraiment sympathique pour un tournoi en Europe, c'était même pas 20 000€ de budget, je crois que c'était même entre 16 000 et 18 000 si je dis pas de bêtises.
C'était environ 20 000, voilà.
Environ 20 000, voilà.
Un peu plus, un peu moins, ça dépend vraiment de.
Ça dépend du CPM Dailymotion.
C'est ça.
Mais voilà, c'est un budget. Il faut savoir qu'en événementiel, c'est un budget ridicule. Tu vas voir un organisateur d'événements et tu lui dis voilà, je veux faire un stand avec 50 postes de jeu sur 3 jours avec 10 tournois différents sur 10 jeux différents. Le mec, il te fait t'as combien? Tu lui dis 20 000 euros, il te met une tarte, il te met un coup de pied au cul et il se casse en courant, tu vois.
Non, mais clairement, le
truc. Il te demande où est le respect après derrière.
Aussi, ouais. Mais le truc, tu veux, c'est que Cannes fonctionne parce que la ville de Cannes, en fait, et le palais des festivals aidaient beaucoup. Et ils fournissaient l'électricité, ils fournissaient le net. Attends, tu sais que enfin, je sais pas si les tarifs se balancent, mais dans les festivals, par exemple.
Eh ben, on va découvrir si tu
balances
pour suivre.
On balance,
hein.
On balance bon, tout ce soir. Fout,
mais par exemple, un méga d'upload pour avoir un stream dans un palais des festivals comme celui de Cannes, c'est 1000 euros le méga.
C'est facile à calculer, cela dit. Oh, hein. Un méga, 1000 euros. Deux mégas, 2000 euros. Trois mégas, 3000 euros.
Donc, quand
c'est bien, c'est un concours.
Quand t'as besoin de 4, 5, voire 6 mégas pour pouvoir faire 2, 3 streams en HD correct, de base, la facture, c'est 6000 balles, tu vois.
Alors voilà. Donc, cette émission du Player Club, je vais la puber violemment avant la prochaine édition de Cannes en disant, voilà, maintenant, vous allez arrêter de râler sur la HD, hein. Parce que vraiment, vous savez combien ça coûte.
Voilà. Mais globalement, Valentin, Yamato a tout résumé, si tu veux, 20 000... Enfin, tu dis ça aujourd'hui, 20 000 euros à un organisateur, mais pour n'importe quoi, hein, pour un type qui fait du jeu de baston ou qui achète un petit stand pour, j'en sais rien, vendre du pâté dans un festival, c'est ridicule. C'est ridicule de ridicule, encore plus quand on parle de la quantité de joueurs, la quantité de matériel, parce qu'on parle quand même à l'époque de consoles qui valaient encore 200 balles, de modèles d'écran que tu dois trouver... Parce que faut qu'il soit de bonne qualité, donc c'est aussi encore 200 balles. Et quand t'as 50 postes, voire entre 40 et 50 postes de consoles, t'en as mais pour un fric, mais monstrueux en fait pour organiser ça. Et tu rajoutes la scène, l'électricité, le fait que bah c'est bien, on est à Cannes, il n'y a pas besoin de payer ni de sécurité, ni d'assurance, ni de machin. Le fait qu'il y ait aussi des spots, des chaises, des tables, tu vois, tout ça, ça s'achète, enfin ça se loue normalement dans un festival.
De la bière. Voilà.
Eh non, la bière, ils l'ont pas donné, malheureusement.
Les saucisses!
Non, voilà. Je sais pas. Mais voilà. Et tout ça, en fait, notamment, le palais des festivals le donnait. Donc, les 20 000 euros, ils servaient à quoi? À défrayer l'essence pour descendre le matériel jusque dans le sud. Et je déconne pas. À louer un camion. Et en gros, à payer les billets de train de la vingtaine ou trentaine de personnes qui descendaient pour bosser gratuitement une semaine.
Ah non, voilà. Mais Bilbo le Hobbit, il peut aller se remballer avec son bouquin. Faire un tournoi à Cannes, c'est une vraie aventure pour le coup, hein.
Ouais, c'est une sacrée aventure.
Très bien, ça nous donne une bonne idée. Alors, on a parlé des jeux qui étaient sortis, qui vont bientôt sortir, on a parlé du monde merveilleux, des tournois, des championnats. Est-ce qu'on peut dire deux mots des jeux, alors là, beaucoup plus loin, hein, de deux jeux en particulier, Tekken 7 et Street Fighter 5. Street Fighter 5, on en a déjà un petit peu parlé. Un point qu'on n'a pas évoqué par contre, c'est une exclue console PS4, pour le coup. Oui. Est-ce que ça change quelque chose?
Beaucoup.
Oh oui, mec.
Ça change beaucoup de choses. Déjà, ça va arrêter de cliver la... Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça va déjà arrêter de cliver la communauté en deux supports. Bon, en deux supports du coup, mais au lieu de trois supports, c'est quand même pas mal. Mmh. Et surtout, de toute manière, quelqu'un qui jouera sur PS3 pourra jouer sur PC. Bon, l'inverse, c'est pas forcément vrai, mais...
PS4.
Voilà, PS4, pardon, excuse-moi, PS4. J'ai une génération de retard, tout
et...
ça, je...
Alors du coup, la question se pose, on sait très bien que pour jouer au jeu de combat, au jeu de baston, pardon, sur un haut niveau, on prend souvent ce qu'on appelle un stick, qui rappelle justement ce qu'on trouvait sur les bandes d'arcade, une petite plaque avec des boutons, un petit stick, voilà, des choses extraordinaires.
Un truc sexy, quoi.
Le truc que tu peux tripoter avec les doigts.
Question con, parce que par exemple, voilà, il y a des jeux de baston qui vont sortir sur Xbox One et sur PS4, est-ce que les pads qui étaient sur Xbox 360 et sur PlayStation 3 sont compatibles avec la génération suivante de leurs constructeurs respectifs?
Non.
Non, alors en fait, il y a deux cas de figure. Il y a des développeurs de jeux de baston, ceux qui ont fait Skullgirls, ils ont profité d'une faille, en fait, de communication de Sony qui a dit « Les accessoires PS3 marcheront sur PS4 ». Donc en fait, quand ils ont annoncé leur jeu sur PS4, il y a tout le monde qui leur a dit « Eh, mais les sticks, ils vont marcher ?» Ils ont fait « Ah bah oui, il faut peut-être qu'on s'en inquiète. » Ils sont allés voir Sony. Sony leur a fait « Oui, mais en fait, vous voyez, on a dit ça, mais en fait, la vérité, c'est que... »
C'était
que
nos accessoires ?
Non, en fait, c'est qu'il faut que vous codiez votre driver vous-même. Voilà. En gros, c'est voilà. Et le truc, c'est que, heureusement, ils ont eu de la chance. Ils connaissent un développeur de Naughty Dog, donc un studio interne de Sony, quoi, qui leur a codé un driver. Et là, en fait, dans tous les tournois et événements qu'ils font, ils disent aux gens de ramener leur stick pour voir s'ils passent. Ils notent les modèles de stick qui passent pas. Et ils ont lancé un appel du pied à tous les développeurs qui le veulent. le driver, il est gratuit à partir du moment où les gens qui l'utilisent, s'ils font des améliorations, ils le renvoient à eux, à l'origine, de façon à ce que tout le monde puisse en reprofiter. Et je sais, enfin, j'ai pas le droit de dire quels jeux vont en profiter, mais je sais qu'il y a des jeux, et pas que des jeux de baston, mais des jeux un peu hardcore, shoot 'em up, plateforme, etc., des trucs de ce genre-là qui ont déjà demandé et qui en profiteront bientôt pour leur version PS4, en fait. Sur Xbox, c'est mort. Tu l'as dans le baba parce que les sticks Xbox 360, ils fonctionnent très bien sur Xbox One Debug, mais pas sur les versions commerciales.
Tant pis. Steve, sur Twitter, veut nous reparler de l'exclusivité PS4. Il a une vue un peu plus antagoniste de la chose et nous dit, en gros, ce côté pro PlayStation permanent me rebute. Priver une partie des joueurs du jeu, est-ce que c'est une bonne chose, finalement?
Non. Dans l'absolu, les exclusivités sont pas vraiment une bonne chose. Le problème, effectivement, c'est qu'on va... Moi personnellement, j'aurais été super vénère à l'époque d'avoir un jeu exclusivité PS3, puisque j'avais qu'une Xbox 360. Et soyons honnêtes, hein, quand on achète une, tu vas pas acheter les deux. Enfin, c'est extrêmement rare. Donc effectivement, dans l'absolu, c'est quand même vraiment dommage. Mais bon, malheureusement, le fait est là, hein, Sony a allongé les biftons, on va pas se voler la face.
Disons c'est... que c'est une politique qui ne profitera pas à tout le monde, mais qui a ses bons côtés, celle
elle
de
a des
pas
bons
séparer,
côtés, voilà, mais voilà. Après, effectivement, tout n'est pas rose dans le monde des bisounours, on va pas tous se faire des câlins et des bisous sur Street Fighter 5 sur PS4, bien évidemment. Mais voilà, c'est un moindre mal le fait que ça recentre un peu la communauté, mais voilà, quand t'es effectivement pas un fan de Street et que c'est pas non plus ton choix number one pour acheter la console, et que tu te retrouves avec une Xbox One, bah effectivement,
parce qu'il
c'est,
a Instinct.
C'est malheureux, quoi. Et encore, il va sortir sur PC potentiellement. Microsoft est en train d'étudier la question, apparemment.
Le truc, en fait, c'est que si on m'avait dit que Street 4 était exclusif que PS4, j'aurais vraiment tiré la gueule. Mais quand j'ai vu version PC en plus, j'ai fait hop, c'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est bon parce qu'au prix du au prix de la PS4 actuelle, je peux me racheter un bon processeur, de la RAM, etc. Ça va tourner nickel, tu vois. Mais après, voilà, Yamato a tout résumé. Mais il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les jeux compétitifs sont soutenus généralement par des constructeurs de matériel. Or, sur console, étant donné que le jeu n'était pas exclusif à une console, aucun des deux constructeurs de console n'avait d'intérêt à mettre des billes pour dire « regardez, j'ai une différence ». Or là, Sony, on en a eu la démonstration directe, pour la prochaine Capcom Cup, donc celle de 2015, ils alignent $500,000 pour Ultra Street Fighter 4. Pour Ultra Street 4, c'est même pas Street 5 encore, tu vois, c'est uniquement pour une vieille version, entre guillemets. Oui. Et le truc, c'est que ça va énormément soulager tous les organisateurs qui vont peut-être pouvoir dire « Vas-y, envoyez-nous peut-être 2000 balles pour le gagnant, comme ça on va moins galérer à organiser les tournois, parce que généralement, ce que le gagnant, l'argent que gagne le premier, c'est l'argent des inscriptions, tu vois. Mm. Donc si par exemple Sony arrive et via... Capcom redistribue cette manne, c'est du bénéf pour tout le monde, si tu veux. Et je vois ça au sens le plus large possible, c'est-à-dire que même les orgas, c'est bon pour eux, même les joueurs, c'est bon pour eux, etc. Là, il y a plein de gens qui étaient un peu moumou, tu sais, genre, ouais, bon, USF4, dans un an, il y a Street 5, allez, ça va être la petite année de pause. Et là, ils ont annoncé 500,000, tous, là, ils sont en mode, ok, on continue, on joue.
En deux mots, parce qu'on est short niveau temps, Tebagi nous demande, ça sent l'exclusivité temporaire pour Street Fighter 5, non, hein?
Non.
Ça a été dit. Bon, après, voilà. Alors, les exclusivités permanentes, on les connaît, hein, surtout chez Capcom. On se rappellera les exclusivités à l'époque de GameCube, hein, Killer 7, je te regarde, je te vois, je te fixe, hein, Capcom. Mais bon.
Surtout Hero 4.
Alors. À la base, à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est une exclusivité pas temporaire.
Je pense que ça risque pas de changer parce que j'ai pas encore j'essaie d'avoir les infos sur quelle partie du développement, combien de Sony a payé dans le développement de Street 5, mais globalement je connais le budget de Street 5 et j'ai pas le droit de le dire, donc je vais pas le dire, mais il est monstrueux, le budget de ce jeu.
D'accord.
Et
donc
Capcom n'aurait pas pu le payer tout seul.
Il est possible que Sony ait mis de la thune dedans.
Ah non, mais c'est sûr et certain qu'ils ont mis de la thune dedans, mais après c'est combien de thunes ils ont mis dedans, tu vois, et le pourcentage qu'ils ont mis dedans déterminera sur le très long terme si ce sera une exclu ou pas. Et le fait qu'ils mettent déjà un $500,000 pour Ultra Street 4 qui sera joué probablement sur PS4 à la Capcom Cup, parce qu'il sort aussi sur PS4 en attendant, tu vois, Street 5, comment tu veux changer de console un jeu après un an, quand il y a un éditeur qui a déjà mis un constructeur qui a mis $500,000 sur la table, tu vois.
Non, c'est
ça paraît compliqué. Tendu quand même, tu vois. Donc moi je compterai pas dessus quoi.
On a Tekken 7 qui sort en février de l'année prochaine, donc dans à peine 2 mois.
En arcade,
mais qui sortira donc beaucoup plus tard, probablement chez nous. C'est pour les 20 ans de la série, ça vaudra le coup, ça vaudra pas le coup très rapidement, parce que là, malheureusement, on court vraiment après le temps, mais c'est aussi un des prochains, des titres qui est censé sortir dans beaucoup plus de temps.
Alors, est-ce que ça vaudra le coup? À la base, je crois que ce Tekken-là, ça devait être un reboot de Tekken, et que finalement, ils ont fait un dernier épisode canonique entre guillemets.
Donc faudra attendre encore pour quelque chose de plus frais.
Faudra attendre pour quelque chose de plus frais, mais en même temps cet épisode de Tekken a l'air de revenir un peu aux sources. Ça ressemble un peu à une sorte de Tekken 3 version HD, si tu veux, ce qui déplaira pas à beaucoup de monde. Et globalement,
ils sont bien inspirés de l'épisode Free to Play. Hein.
Ouais, en fait leur épisode Révolution, qui est un épisode en fait qu'ils ont utilisé pour tester des personnages, l'accès au jeu, etc. Et d'après ce que Arada m'avait expliqué en interview, ça les a fait beaucoup réfléchir, parce qu'ils ont renouvelé leur fanbase, notamment aux États-Unis, avec un public beaucoup plus jeune. Et donc, ça les influence aussi bien en termes de gameplay qu'en termes de contenu, tu vois, vraiment. Donc les nouveaux persos, notamment ceux qu'on a vu arriver, dont une qui s'appelle Lucky Chloé, qui a été annoncée cette semaine et qui est terrifiante. On sent bien que s'il est pas pour nous, le perso, les trentenaires qui jouent à ça depuis des années. Non, il s'annonce bien. Hein. Franchement, je pense que ce sera un bon Tekken. En fait, je pense que ça va être le Street 4 de Tekken. Tekken 7,
d'accord.
Pour être honnête.
Voilà. Ce sera l'épisode qui inventera pas forcément énormément de choses, mais qui posera un peu les bases de nouveau.
Ouais, qui permettra de s'arrêter un petit peu, tu vois. De s'arrêter un peu dans l'escalade, parce que Tekken est une série qui escalade dans la complexité et la taille de roster depuis Tekken 5, je crois, quasiment, quoi. Donc, qui est sorti en 2004 ou 2005, donc tu vois.
En parenthèse, roster, donc pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est la sélection de personnages, personnages qui sont disponibles dans le jeu.
Et on a oublié Pokémon Rumble.
Mais putain,
oui. Tekken aussi.
Ah ouais, c'est plus important.
Oui. Pokémon Fighters.
Pardon, excuse-moi, Pokémon Rumble, n'importe quoi.
C'est quoi, c'est 2015 ça aussi ou
2015, c'est arcade uniquement Japon, donc pour l'instant c'est un peu limitatif.
Ouais, c'est un peu comme la bande d'arcade Luigi's Mansion, j'ai peu de chance qu'elle arrive par là, mais
si, voilà. ça arrivera sur Wii U, c'est sûr et certain.
Car il faut des jeux.
Oui, et puis mais il y a le temps, si tu veux. Puis je pense que le but c'est de faire un jeu de baston arcade entre guillemets. Ils vont le tester en arcade, voir la réaction avant tout, et ensuite ils vont le sortir quand ils auront une version définitive. Et puis ils mettront plein de contenu dedans, comme dans Smash Bros. Et ce
sera
cool. Voilà.
Très bien. Bah merci à vous trois pour ce panorama du jeu de baston. Merci à toi, Nathan. Tu nous viens de Gamekult. Tu nous viens aussi de bagro.fr.
Merci.
Avec nous aussi, il y avait Léo, qu'on peut lire sur le portail du jeu vidéo, dans le magazine.
Un très bon site.
Jeux vidéo News Magazine. Et Game Love.
Merci à vous.
Et notre ami Yamato, qu'on peut voir chez les numériques, mais aussi écouter dans le podcast Lag à part.
Et voilà, effectivement, merci beaucoup.
Alors les amis, on se fait un petit jingle, parce que j'ai une petite annonce spéciale pour les prochaines émissions. Quel beau jingle. À partir de la semaine prochaine, on entre dans une partie un petit peu spéciale pour le Player Club. La semaine prochaine, donc le 22 décembre, vous retrouverez le Player Club Awards à partir de 20h30. Ce sera avec Pipo Mantis, ce sera avec Adrien Guillotot du Figaro, ce sera avec Boula Poire de Gamekult. Pipo Mantis, en parenthèse, je l'ai pas dit, mais évidemment de Canard PC. Et on fera le tour comme chaque année. Avant, c'était les Respawn Awards, ça devient désormais les Player Club Awards sur les meilleurs jeux. Je leur ai demandé un peu ce qu'ils ont aimé cette année, ce qu'ils n'ont pas aimé aussi. On en fera le tour et ça durera une demi-heure de plus qu'un Player Club habituel, donc à partir de 20h30 la semaine prochaine, toujours en direct ici sur Synopsive et en téléchargement et podcast sur radiojv.com qui produit cette émission. Et puis le 29 décembre, juste avant la fin de l'année, le dernier Player Club de l'année, eh bien ce sera un Player Quiz pendant une heure avec les gens de l'ombre de Radio JV, les gens que vous n'entendez pas forcément ou pas super régulièrement, ou en tout cas qui font beaucoup de boulot dans l'ombre, dans les coulisses, à publier les émissions, à faire des balances sons. Eh bien ils auront la parole, ils joueront entre eux à des petites manches de quiz. Je devrais avoir Alex le serveur et Alvin avec moi, on va encore voir les disponibilités, mais normalement ça devrait être le cas. Puis vous pourrez retrouver vos manches préférées du grand quiz de l'époque dans le Player Quiz, donc j'espère que ça vous fera bien plaisir. Donc voilà, le Player Club ne s'arrête pas là, je vous rassure tout de suite, on continue pendant les fêtes. Les semaines, les deux semaines qui suivront début janvier, on fera peut-être un petit peu de pause, probablement avec des rediffs. Je vous tiens au courant là-dessus, de toute façon, voilà, on n'est pas pressé, vous le saurez au fil des émissions. Et puis évidemment, sur la page Twitter, le compte Twitter @leplayerclub, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les infos concernant l'émission. Et du coup, laissez-moi vous dire que le Player Club, c'est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain à partir de 21h en direct, non 20h30 même, exceptionnellement, chez nos partenaires de la web radio Synops Live et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. Je retrouve mon ami Kokobé. Kokobé, bonsoir.
Bonjour et bienvenue dans le show de Mario Chat. Bonjour, nous recevons des invités exceptionnels comme Peach Chat. Bonsoir Peach Chat.
Quelqu'un, c'était vous?
Oui, bonjour Mario Chat. Bonjour.
Ça, non, le chat c'est plus ah oui, on va jouer.
Ah, bonjour Mario Chat.
On va jouer à la Nintendo 3DS.
Tuez-moi s'il vous plaît.
Tuez-moi. De quoi
on s'est fait envahir.
De quoi vous êtes à remettre Animal Crossing dans vos consoles.
En fait, c'est Mickey qui est venu.
Allez les enfants.
Petite question, de quoi vous allez parler dans Pass the Stick ce soir?
Bah, on va faire la chronique de Talos Principle et d'un autre jeu, j'ai oublié, c'est pas grave, on va surtout faire
Game of Thrones.
Voilà, exactement, et on va donner nos attentes de 2015, voilà, puisque c'est la fin d'année et que ça se fait.
Ce sera votre dernier numéro de Passe le Stick de l'année.
Et ben oui, et du coup, c'est un petit peu. Alors j'entends plus rien, par contre, il faut remettre le son, s'il vous plaît. Et c'est un petit peu. C'est plutôt émouvant, pardon, puisque bon, c'était une année plutôt pleine de changements, voilà.
D'accord, bonne émission à vous, et puis à très vite.
Merci.
Plutôt.